Vivre FM, podcast.
De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
Je reçois avec un grand plaisir Lilou Masset pour son livre « Le défi des 100 jours ». Lilou a déjà publié plusieurs livres, mais aujourd'hui, elle vient nous parler de ce guide, un cahier d'exercices pour une vie extraordinaire. Lilou Masset est elle-même extraordinaire. Elle a découvert l'infinie puissance du cœur et veut partager avec toutes les personnes de bonne volonté. Blogueuse, intervieweuse, sa gourmandise de la vie lui ouvre toutes les portes. Alors surtout, restez sur Vivre FM et rencontrez Lilou. Bonjour Lilou Masset, merci de venir nous voir. Alors vous êtes écrivain, vous avez écrit plusieurs livres. Alors vous dites toujours, non c'est pas exactement, vous n'osez pas vous appeler écrivain. Et pourtant quand on sort des livres, on est écrivain.
Oui, c'est vrai, c'est le quatrième, mais c'est quelque chose qui se fait tellement de manière naturelle. C'est-à-dire que je les ai dictés ces livres au fur et à mesure des événements et des challenges auxquels je faisais face au fur et à mesure. Donc je les ai enregistrés. Et ensuite, c'est devenu des livres. Donc, c'est un peu plus sur en forme de blog. Et
disons que c'est plus moderne.
Ouais, ouais, c'est moderne. Voilà, c'est très moderne comme manière d'écrire.
Un écrivain moderne.
Voilà. C'est ça.
Alors, votre premier livre, c'est assez étonnant, les titres, hein. C'est J'ai perdu mon travail et ça me plaît. Alors, ouais. Est-ce que ça vous a plu tout de suite parce que je pense que c'est parti d'une réalité.
Oui, oui, c'est le 16 février 2009. J'étais directrice marketing à Londres et j'ai reçu un coup de téléphone et là, on m'a annoncé que j'étais virée. En gros, que je pouvais remballer mes affaires et retourner à la maison. Donc c'était brutal sur le coup, j'étais vraiment sur le choc.
Donc ça vous plaisait pas, ouais, ça vous a pas plu sur le début.
Non,
comme pour tout le monde, je pense.
Voilà, ça a été assez humiliant. Je l'ai même très mal pris parce que j'étais à fond dans la loi de l'attraction, d'être positive, etc. Donc je comprenais pas comment j'avais pu attirer une perte d'emploi alors que j'étais une personne bien, quoi.
D'ailleurs, c'est choquant, non?
Ouais, ouais, ouais.
Ça l'est, je pense. Ouais. D'une façon générale, humainement parlant, c'est choquant.
Ouais, c'est dur face aux collègues, etc. Et puis, j'étais pas trop sûre de ce que ça voulait dire, ce que j'allais faire. J'étais à Londres, c'est une vie qui coûte cher. C'est comment survivre sans travail. En même temps, ce travail me plaît plus. Enfin, c'est toutes les questions après qui ont commencé à découler à partir de là. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Parce que ce job-là, pour tout dire, il me stressait, ça me rendait pas du tout heureuse. Et en parallèle, je faisais des vidéos blogs sur YouTube, j'avais déjà quelques millions de vues. Et c'était quelque chose qui me plaisait, que je faisais de temps en temps, de manière
oui,
assez régulière.
Pas trop même. De temps, donc.
Mais, voilà, c'est comment on passe d'une passion, de quelque chose qu'on aime, à en vivre, en fait.
Oui, c'est voilà, ça c'est difficile. Par contre, là, ce que vous dites un peu, sûrement dans le livre aussi, c'est comment l'instant de panique, j'ai plus de job, et après, en découler quelque chose de, après tout, qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que c'est pas mieux? C'est
voilà.
Ça, en fait.
Voilà,
en
c'est
gros.
Ça, et au fur et à mesure de la journée, elle commençait à se dérouler, je commençais à me poser des questions et à me dire que finalement, c'était peut-être exactement ce qu'il me fallait pour démarrer quelque chose de nouveau et surtout qui était lié à ces vidéos YouTube que je faisais déjà, qui était lié à cette mise en pratique de ces outils de développement personnel, que je voyais que ça fonctionnait, les gens écoutaient, mais après comment faire ça à temps plein. Donc je l'ai pris comme une assez rapidement, en fait dès le lendemain je me suis mis à enregistrer, je me suis dit ok, il y a tous ces outils de transformation, j'en ai entendu parler, est-ce qu'ils marchent vraiment, c'est le temps de méditer, c'est le moment de réfléchir, de visualiser, d'attirer vraiment le job de mes rêves, quel est ce job là, comment de mettre tout ça en place.
Alors, est-ce que c'est pas plus facile, parce que vous êtes jeune, est-ce que c'est pas plus facile quand on est jeune aussi?
Ah, ben, c'est sûr que je sais que, en tout cas, je suis pleine d'enthousiasme et j'aime rebondir. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'à chaque étape difficile de la vie, c'est vraiment une opportunité pour évoluer, pour grandir. Donc, j'ai été puisée. C'est vrai que je suis quelqu'un qui rebondit par rapport à ça. J'aime pas rester trop longtemps dans ces périodes de doute, de négativité, et pourtant en même temps mon petit côté scorpion, côté un peu lune en scorpion qui me fait vraiment très réfléchir et je peux être très dans mon mental, mais ça a été clairement l'opportunité de vraiment maintenant de le vivre à temps plein ce que j'aime faire et de m'en donner les moyens. Mais c'est passé après ça par la case j'ai plus d'argent. Donc le deuxième livre c'est j'ai pas d'argent et ça me plaît parce que je suis retournée chez mes parents à la suite de ça à l'âge de 32 ans.
Ouais.
Alors là, oui, c'est encore une autre belle claque et quelque chose qui pareil pour moi faisait partie du processus maintenant que j'appelle de réouverture de cœur, de reprendre confiance en soi, en la vie. J'avais été clairement blessée par des événements du passé, par les divorces de mes parents, mon père qui part, etc., etc. Des choses comme ça qui font que des fois on s'enferme et on n'ose plus, on se fait plus confiance. On a même peur de l'amour. Certains d'entre nous, on a peur de l'amour.
Bah oui, de la mort ou de l'amour?
Des deux. Et de l'amour. L'amour nous fait peur. Moi, l'amour, pour moi, je me disais, mais ça nous manipule.
Bah, c'est un peu dangereux, des fois. Hein.
Ouais.
C'est vrai.
Mais un cœur qui est ouvert, il a envie d'aimer, il voit à travers
de... Il a besoin.
Ah ouais, il en veut, il dit, donne-moi-en encore plus.
Oui.
Il n'a pas peur de réaimer.
Alors on peut, quand on a souffert, quand même avoir peur.
Et voilà. Et c'est ça la guérison, le travail qu'on a à faire, c'est de guérir ses blessures pour se réouvrir, parce que c'est vrai que quand on a, il y a vraiment deux grandes émotions, hein, la peur ou l'amour, et quand on est dans cet amour, on a des ailes, mais c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de soi, c'est aller
amoureux,
de l'avant, d'être dans la gratitude.
Vous avez raison, quand on est amoureux, on a des ailes.
Ah ouais.
Ça c'est génial.
Ça c'est pas mal d'être amoureux.
Mais un peu, ça peut se transformer en un amour autre.
Ouais.
Ça doit se transformer d'ailleurs, mais c'est encore un travail, ça vous allez le dire.
Ouais.
Alors quand vous dites ça me plaît, c'est pas j'ai plus d'argent, ça me plaît, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce voilà.
C'est les leçons.
Les leçons
dans tout ça, c'est cette transformation qui s'est passée grâce à ça. C'est vraiment transformation, c'est-à-dire que ma vie n'est plus ce qu'elle était avant. Mon job maintenant, de voyager à travers le monde, de faire ces interviews, d'écrire des livres, de faire des conférences, tout ça, de faire des rencontres. C'est un job sur mesure qui a été créé, et puis mon rapport à l'argent a complètement changé. C'est-à-dire que je le vois plus d'une manière dans l'abondance, la gratitude. Avant, j'étais une éternelle insatisfaite. C'est-à-dire que j'avais
un but.
Vous
gagniez de l'argent, mais vous étiez insatisfaite quand
Alors,
même.
Je dépensais, moi.
Ouais,
mon mal-être, je dépensais, je pouvais pas en avoir de trop. C'était constamment un achat pour combler un mal-être, pour pas voir quelque chose d'autre qu'il y avait en moi, qui avait besoin d'attention, beaucoup plus d'attention que simplement... Oui. Un sac
puis,
à main.
Peut-être une autre connaissance, en fait, même dans le travail.
Ouais, et puis se la donner. C'est ça, c'est surtout se la donner, se l'offrir.
Mais quelquefois, on ne nous la donne pas non plus.
Ah ben non. Et puis surtout, quand on se la donne pas à soi-même, on a du mal à le recevoir et même de demander, de communiquer ça, parce qu'on peut le demander à quelqu'un. S'il te plaît, maintenant, je le dis à ma maman. S'il te plaît, donne-moi cet amour. Je lui explique même comment m'aimer, d'ailleurs.
Ouais, mais on peut le dire à la famille. C'est difficile dans le travail.
Alors dans
les
le travail, c'est
pas.
Magnifique. C'est magnifique de pouvoir le faire, de s'autoriser à le faire, de cette liberté. Parce que quand c'est dit dans l'amour, plein de choses, même un nom peut être dit dans l'amour, ça n'a rien à voir. C'est plus du tout la même dynamique.
Alors votre maman, elle l'a compris ça? Elle sait le dire maintenant?
Ouais. C'est vraiment, on a traversé des années très très difficiles. J'ai un tempérament, j'ai été très rebelle pendant l'adolescence. J'étais très dure avec elle.
Ça se sent un peu,
génial. Oui. Et donc je reviens de loin et on revient de loin dans notre relation et maintenant de pouvoir voyager ensemble, de passer du temps ensemble. Je vais très régulièrement de retour à Nantes pour la voir et voilà. Après, je pense que c'est toute une vie où on va redécouvrir ses parents, même un parent de redécouvrir pour elle de me redécouvrir.
En fait, vous avez raison, c'est le manque d'argent qui vous a poussé à retrouver quand même votre mère.
Ah mais c'est le manque d'argent, ça a été une telle souffrance. Je le décris dans le livre, mais j'avais l'impression de suffoquer, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de mourir. Il y avait une telle identification pour moi au matériel.
Oui, on a l'impression qu'on peut plus aider personne aussi, pas seulement soi.
Non, mais on a l'impression moi j'ai l'impression que j'existais plus, que j'allais jamais trouver une solution, que ma vie était finie. Hein. J'avais du mal à respirer. Et
non,
à un moment,
à ce moment-là,
souffrance...
vous étiez jeune quand même. C'est curieux de pas s'être projeté sur autre
32.
Chose.
32. Ouais.
Ah oui, c'est jeune.
Ouais, mais quand toute sa vie, on voit la vie à travers ce prisme-là, et que la voiture n'est plus là, le job, l'argent sur le compte et tout, etc., on a l'impression que sa vie s'est écroulée.
Et ça vous a servi à renouer avec votre maman.
Et à réouvrir mon cœur à la vie et à moi-même. Et ça, c'est vraiment là. Et de voir l'argent comme, ne plus voir l'argent juste pour l'argent, de vraiment reconnaître qu'il y a cette abondance dans la vie qui est naturelle. Il y a de retrouver la gratitude pour ces petites choses que je voyais plus, d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir un lit, d'avoir de quoi manger, de toutes ces emails que je peux recevoir de remerciements par rapport aux interviews, aux livres. Tout ça, c'est ça qui fait que la vie est délicieuse.
Alors, très bien, effectivement, vous dites, il faut viser aussi, faut se battre pour avoir des choses, mais en même temps, ne jamais oublier d'être dans la gratitude de ce qu'on a. Je pense que c'est vraiment de la sagesse.
Ah ouais, et puis ça rend tellement heureux. C'est-à-dire, au lieu de faire la liste de toutes les choses qui n'ont pas été dans la journée, avant de s'endormir, de dire 5 choses pour lesquelles on a été reconnaissant aujourd'hui, après ça devient une habitude.
Oui, et puis même de ce qu'on a aussi, si vous avez raison, on mange, on a un toit sur la tête, c'est déjà primordial.
Non, et puis la nature, regardez la nature tout autour de nous.
C'est vrai.
Il y a une perfection d'être en vie. D'être de pouvoir regarder peut-être les yeux de la personne en face qui dit si on va pas. Moi, j'ai toujours eu cette peur de perdre la vue ou de perdre un de mes sens, mais quel bonheur de l'avoir. On fonctionne comme ça, comme des robots.
Alors, vous voyez, j'aime beaucoup la radio, mais là, je regrette de pas être à la télévision parce que je voudrais que les auditeurs puissent voir vos yeux et votre dynamisme et votre gourmandise de la vie, quand même.
Ah ouais. Oui, j'adore. J'adore la vie et elle me le rend bien. C'est-à-dire qu'il y a cette communion maintenant, il y a cette union et même je lui parle à la vie. Je lui dis, j'ai besoin d'un coup de pouce, j'ai besoin d'aide, de trouver une solution par rapport à ça. C'est une danse. Et la vie, après, c'est vrai qu'elle nous offre plus ses secrets. C'est une relation.
C'est vrai que si on lui parle et si on communique, il se passe quelque chose. Ouais. Si on communique pas, il y a rien.
Il y a rien de l'autre côté. Et c'est là où on se sent séparés, on se sent seuls, alors que on est vraiment, pour moi, on est tous des co-créateurs. Donc je démarre toutes mes vidéos, mes interviews par bonjour.
Non, justement, alors vos premières vidéos, vidéoblogs, qu'est-ce que c'était? Alors vous travailliez et vous faisiez des vidéoblogs en parallèle. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y avait sur ces vidéoblogs?
Alors en 2005 aux États-Unis, en Floride, on a démarré avec deux autres amis le défi des 100 jours. Donc on avait créé cette plateforme.
C'était déjà le début.
C'était le début, ouais. Donc il y a presque 10 ans et on s'est dit c'est chouette de participer à ces séminaires de développement personnel voire même spirituel, mais est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur nos vies? On avait lu que si on faisait du sport, on avait plus d'énergie, que si on méditait, on était plus calme dans la journée, etc. Mais est-ce que ça peut vraiment... Donc on a mis ça en place sur 100 jours et j'ai commencé à vidéobloguer, c'est-à-dire on se fixait des objectifs, des intentions pendant 100 jours. Et en partageant comme ça, en vidéo-bloguant, moi j'ai mis ça sur YouTube assez rapidement, et les gens ont commencé à écouter en fait mon parcours, c'est-à-dire je parlais de mes challenges, de ce que je découvrais, des choses que j'avais pu attirer à moi, d'un livre, etc. Et les gens ont commencé à regarder ça, à mon plus grand étonnement,
oui,
et ça a commencé comme ça.
Et ça c'était en Californie.
Et ça c'était en Floride, à Fort Lauderdale, que ça a commencé, et après ben, le défi des 100 jours est devenu, je crois qu'en France, on a depuis 2009. Ça.
Alors, on va faire une pause musicale et puis on va redevenir, alors, au gros, il y a un gros livre, mais on peut le trouver aussi sur Internet, donc on va en parler plus sur ce que chacun peut découvrir dans ce défi des 100 jours.
Oui,
on
se retrouve. Bien.
La santé mentale en question, Anne Voileau.
Oui, Massé, donc c'est très passionnant d'être avec vous. Donc on était en train de parler d'un document que vous avez fait sur les 100 jours. Donc ça veut dire quand même un peu que si on rentre, soit on a le livre, hein, on peut aussi, soit on va sur Internet, c'est gratuit.
Oui, défidescentjours.com, ouais, c'est gratuit.
C'est pas toujours, y a pas beaucoup de choses gratuites, donc c'est bien.
Ouais.
Et alors, il faut quand même un peu, on s'aperçoit qu'on a des petits exercices. Sur le moment, c'est simple comme exercice, mais ça demande quand même de s'engager.
Ouais. Alors le site en lui-même, il n'y a pas d'exercice. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui choisissent un objectif à 100 jours, une intention sur les 100 jours, et ensuite ils décident d'appliquer certaines pratiques, peut-être de méditer pendant 100 jours, de faire de l'exercice, de lire tel et tel livre.
Ou de mélanger les deux.
De voilà.
Parce qu'en 100 jours, on a le temps quand même.
On a le temps, ça fait plus de 3 mois,
oui, quand même,
et les choses bougent. Hein. J'ai recueilli des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui ont vraiment transformé leur vie, qui ont créé un nouveau job, qui ont écrit un livre, qui ont rencontré un partenaire de vie. Il y a vraiment, quand on se met comme ça un objectif, une intention, on commence à voir la vie sous ce prisme-là, avec ces lunettes-là. Et c'est loin d'être les lunettes roses, bisounours où tout va bien. Hein. Ça bouscule les choses, donc ça demande énormément de courage. La transformation se fait pas toute seule. C'est pour ça que ça s'appelle le défi des 100 jours aussi.
Oui, c'est un défi quand même.
Parce qu'il y a un défi qui va se présenter par rapport à cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il y a un décalage et il y a cet apprentissage et il y a cette évolution-là qui peut...
Faut se bouger.
Eh ouais. Et ouais, on applique ces outils-là parce que on les a lus, les livres, on sait ce qui fonctionne, mais après on le fait quelques jours et on abandonne. Et ensuite on se demande pourquoi sa vie ne change pas, mais
ou on sait pas comment faire des fois, quelquefois, si c'est pas évident quand
même. Donc dans le cahier en lui-même.
Alors dans le cahier là, c'est vraiment un vrai travail.
Voilà, là c'est 400 pages hein, quand même. Il y a à peu près 3 pages par jour avec toutes les explications de ce que c'est le défi des 100 jours, etc.
Mais ça c'est vraiment très bien parce que même si je pense que les 2-3 premiers jours, j'ai essayé, on va peut-être pas tout faire, surtout quand on travaille et tout. Mais après, on se prend un peu au jeu et j'ai l'impression qu'au bout de 10 jours, on fait tout en fin de compte.
Ouais. Et là, je l'ai utilisé, moi, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je l'ai utilisé une cinquantaine de jours. Et là, je vais redémarrer bientôt une nouvelle saison, donc la 32e saison du défi des 100 jours. C'est-à-dire que j'ai fait 32 fois 100 jours.
Alors, est-ce que ça évolue à chaque fois?
Et ça évolue. Et là, d'avoir le cahier, mais ça me donne.
Je pense que le cahier est important.
Ah oui, ouais. parce que c'est des exercices, c'est un petit rappel, c'est une piqûre voilà. tous les jours, et ça on met 5 minutes, mais rien que de se dire, ok, quelle est mon intention pour la journée, à la fin de la journée, de faire le bilan, de suivre l'exercice, peut-être de regarder une vidéo, et puis surtout de passer du temps aussi sur le site, de voir les d'autres personnes qui sont, elles aussi, qui mettent tout ça en pratique, ça inspire.
Oui, c'est un peu comme quand on veut maigrir. C'est vrai que ça marche quand on le fait avec d'autres.
Ouais, et puis c'est plus sympa.
Ouais, voilà.
Et maintenant, j'encourage les personnes à le faire qui sont dans une même ville parce que je voyage assez régulièrement et je rencontre comme ça les co-créateurs du site et qui se retrouvent, en fait. Et de le faire entre copines, c'est sympa ou entre copains.
Alors, en fait, vous avez retrouvé quand même les voyages, hein. Vous avez réussi.
Ah oui.
Ce que vous faisiez
avant. Plus que jamais.
Ah oui.
Plus que jamais, maintenant.
Mais,
ouais.
Vous avez trouvé une liberté. On sent ça.
Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est comme si, au fur et à mesure, je trouve, de la transformation humaine, on était de plus en plus libre d'être soi-même. Et c'est vraiment ça qui est génial. C'est cette liberté d'être, où on enlève ses masques, on a de moins en moins peur du jugement des autres, on s'autorise à vraiment vivre son rêve, même s'il paraît fou. C'est le nôtre et on y va, on va de l'avant, on attend moins de validation extérieure. On se la donne, après on se dit allez, on va y arriver, et ça c'est énorme de s'offrir ça.
Et je trouve que les gens qui se mettent des masques, le masque est souvent beaucoup moins bien que la personne elle-même. C'est ça qui m'a toujours surpris.
Ouais, puis on le voit.
Non, puis c'est moins bien.
Ouais.
Donc on se pose la question, tant qu'à faire de mettre un masque, j'essaierai de mettre un masque beaucoup mieux.
Oui, mais le masque est tellement faux et pas vrai que ça fait inauthentique, on sent qu'il y a quelque chose, voire même on n'a même pas envie de rester avec cette personne-là parce qu'il y a un truc qui est là qui ne correspond pas, que cette personne essaye de cacher. Donc ça crée plein de malentendus même, et de surtout pas une vraie connexion. On est des êtres humains. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de si mauvais? Qu'est-ce qu'on essaie de planquer là?
Alors il y a aussi je n'ai pas de religion, mais ça me plaît. Alors on peut décliner ça à l'infini. J'ai une religion et ça me plaît.
Oui. Et là c'est pas un plaidoyer contre la religion.
Oui, non,
rien. Au contraire, c'est vraiment de communiquer directement à la vie, avec la vie et pourquoi passer par un intermédiaire finalement. Bah, au contraire, plus du tout de dogme ni de texte. C'est cette spontanéité même de prier, une spontanéité de déclarer, d'être, de vivre cette union avec la vie, mais de manière simple et spontanée, sans tous ces protocoles, etc.
Alors je veux dire, vous avez de quoi écrire parce que vous pouvez faire comme ça une liste. Jusqu'à la fin de vos jours, hein, vous pouvez en sortir 1000 livres comme ça.
Ouais, bah l'année prochaine, ça sera « Je suis célibataire et ça me plaît ».
Oui, mais ça, on peut trouver des bonnes raisons. C'est autre chose.
D'accord.
Non, mais c'est vrai que... alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent sur ces livres par exemple, bon, j'ai pas d'argent et ça me plaît. Est-ce que les gens vous écrivent simplement en disant, peut-être, moi, j'ai pas d'argent, mais j'arrive pas à m'en sortir, et ça m'a un peu bousculé, votre livre, parce que comment je fais, en fait?
Ouais, ben c'est surtout des personnes qui, je me suis fait critiquer pour le titre de ce livre quand il est sorti, parce que ils ont dit attends, t'es gonflé, voire même provoque,
mais c'était
vraiment,
ouais,
mais c'était vraiment, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire vraiment le bonheur.
Ça m'a pas plu tout de suite, quand même.
Ça m'a pas plu, hein. Et pendant très longtemps, ça m'a pas plu, mais les leçons de tout ça, voilà. Et c'est ça, souvent l'argent, ça va être une excuse. Pour aller vers ses rêves, on va dire, j'ai pas l'argent ou j'ai pas le temps. Il y a tout ça et on se leurre complètement parce que moi, je l'ai vu, et même avec ce projet comme ça de partir à l'international, de mettre des vidéos gratuites, j'ai mis 3000 vidéos en ligne. Il y a des millions de personnes qui l'ont vu, ça a aidé plein de personnes. Tout ça s'est fait sans argent, sans sponsor, sans tout ça. Comme vous, cette radio,
elle a commencé sans argent, mais elle a du mal à continuer sans argent.
Oui, et pourtant elle est existante.
Et pourtant elle existe. Ouais,
et c'est des gens qui ont fait des dons.
Et puis c'est les gens qui sont là aussi, qui font la radio et qui acceptent de pas être richissime du jour au lendemain. Voilà. Jason, notre technicien, sourit. oui, c'est vrai. Il y a pas que l'argent, en tous les cas, ça c'est sûr.
Et non, et ça fait pas le bonheur.
C'est vrai. Alors ça pourrait, les titres, ça pourrait être « J'ai pas d'argent et ça a fini par me plaire
».
C'est un peu ça, en fait.
J'avais plus d'argent.
Ou j'ai construit avec. Quelque part, j'ai construit avec. Ça serait pas mal, ça. J'ai plus d'argent et j'ai construit avec.
Ouais. Mais c'est surtout un livre sur l'ouverture de cœur et sur l'abondance. C'est-à-dire de me réouvrir ce cœur, ça a été le vrai bénéfice de ne plus avoir d'argent.
Tous vos livres sont ça.
Ouais.
C'est la générosité.
Là,
c'est
là, c'était le cœur qui se réouvre à la vie. Ça, c'est vraiment un gros changement. que je pense que plein de personnes ont l'opportunité de vivre, c'est-à-dire c'est vraiment se réouvrir à la beauté de la vie, se réouvrir aux autres, se réouvrir à soi-même. Ça, c'est un gros changement de paradigme que notre société est en... D'ailleurs, il y a un film, L'infini puissance du cœur, qui est magnifique, et qu'on peut regarder, lire ou voir le DVD. C'est extraordinaire ce que ça explique, cette intelligence de cœur, cette sagesse qu'on a dans le cœur. Et donc, en fait, au lieu d'avoir la tête qui est ce maître, devient le maître à penser, c'est-à-dire que la tête devient le serviteur et le cœur, vraiment, est là, et ce maître qui nous guide à travers les intuitions, à travers nos ressentis. C'est une manière de fonctionner qui est complètement différente de ce qu'on a appris.
Oui, une manière, la plupart d'entre nous, de se faire confiance aussi. Autant on n'apprend pas ça du tout à l'école, hein,
non.
Ça c'est sûr. Donc
ça manque.
On est obligé de, effectivement, d'apprendre autrement.
Oui.
Et c'est ce que vous faites avec les gens.
Oui. Et y a tellement de belles personnes sur cette terre.
Ah, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord.
Mais il y a tellement de merveilleuses histoires. Pourquoi les médias, pourquoi la télé, tout ça, les journaux ne parlent pas plus de toutes ces histoires? Pourquoi on est dans ces scénarios catastrophes tout le temps? Alors qu'il y a des personnes qui traversent des burn-out, la maladie, tout ça, qui trouvent la force humaine. L'humain est vraiment bon et beau et lumineux à la base.
Parce que je pense que l'humain, c'est vrai quand c'est pris individuellement. Et après, les masses, c'est différent. C'est pour ça, je crois qu'on arrive à autre chose. C'est pour ça que les petites cellules ou familiales ou même des petites cellules de sociétales sont beaucoup mieux quand elles sont petites. Après,
oui.
ça devient compliqué.
Possiblement.
Mais vous parlez de l'humain. De l'humain.
Oui.
Alors, vous donnez des conférences aussi, j'ai appris.
Oui. Oui, très régulièrement. Je reviens du sud de la France, mais en Belgique aussi, en Suisse, au Québec et un peu partout, aussi aux États-Unis.
Vos conférences, elles parlent de tout ça, en fin
de
compte.
Oui, transformer sa vie en 100 jours.
Ah oui, c'est toujours les 100 jours. Hein.
Ah ben là, c'est les 100 jours et c'est toujours par rapport aux outils, à la pratique, parce que je suis quelqu'un qui aime bien passer à l'action et j'ai envie d'encourager vraiment les gens à y aller, à l'appliquer, à appliquer toutes ces choses-là. Et avoir le courage de le faire, parce que ça demande beaucoup de courage.
Alors, je pense qu'au départ, c'est pas forcément beaucoup de courage de se dire j'aurais envie de faire ça. Par contre, après, de monter les marches pour y arriver, c'est autre chose.
C'est ça. Parce que quand il y a un défi, on se dit ça y est, c'était pas fait pour moi.
Oui, voilà. Je suis pas assez bien. Je vais pas y arriver. C'est pas peine que je me fatigue. Enfin voilà. Donc c'est peut-être passer. C'est pas tellement de se donner le défi. C'est après d'aller jusqu'au bout en fin de compte.
Et puis
c'est
offrir de la douceur tout au long du chemin. Parce que moi avant c'était j'y allais avec la cravache et être très très dure sur moi-même. Alors que je me rends compte que plus je m'offre de douceur et me dire ok peut-être que cette fois-ci t'as pas compris mais ça va. On avance.
Ou t'es fatigué. Ou t'es fatigué.
Demain.
Voilà.
Et de recréer aussi, je pense que quand on a un défi comme ça, de recréer une nouvelle intention. Mon intention est que le reste de la journée se passe bien ou de trouver une solution par rapport à ce problème. Plutôt que de se dire qu'est-ce que j'ai fait,
qu'est-ce que j'ai pas fait. Encore pire.
Ouais.
Bah oui, mais là,
piétine, on devient des victimes en plus parce que prendre 100% responsabilité pour ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus au fur et à mesure, c'est pas mal ça aussi.
Ouais, mais alors ça part quand même. Je pense d'un a priori qui est pas toujours évident. C'est quand même d'avoir une certaine confiance en soi.
Ouais.
Et ça, c'est le plus difficile à acquérir.
Ouais. Mais ça, c'est pas à pas. C'est vraiment pas à pas et un vrai oui après un autre vrai oui, savoir dire non, un non dans l'amour. Parce que petit à petit, quand on va s'autoriser à dire que des vrais, vrais beaux oui qui sont en résonance avec nous-mêmes.
C'est vrai que savoir dire non, c'est pas bête que vous dites.
C'est même derrière un des choses c'est le plus important. Même dire non à un ami, de pas pouvoir aller, je sais pas moi, il nous invite à dîner ou de passer ce moment-là, et on a envie plutôt de prendre un bain tranquillement chez soi. Ça, c'est de l'amour qu'on se donne, mais c'est des petits pas comme ça, petit à petit, on va être plus observateur.
Oui, de savoir dire non sans se culpabiliser.
Ah ouais.
Parce que
oh là là, moi ça, c'est trop facile de tomber en plein là-dedans. Et oui, puis après, on se trouve des personnes qui nous aident à culpabiliser.
Ah, ça, c'est toujours, oui. Ouais, ça, c'est pas bien
génial.
Ce que t'as fait là-bas. Oui.
Ah là là.
Mais on est quand même les premières. Hein.
Ouais.
On est quand même les meilleures pour se culpabiliser.
Ouais. Non, mais c'est beau de le reconnaître et c'est beau d'en rigoler et puis de le dire aussi en toute authenticité telle quelle. Il y a des vidéos que j'ai faites comme ça, des faits sur YouTube où j'avais de la rosacée qui me couvrait le visage, où il y avait vraiment des grosses choses que je traversais et le fait de le dire comme ça et d'oser même parler de ses défauts soi-disant, ça libère.
Oui, et puis en fait, on s'aperçoit aussi que les autres sont quand même souvent beaucoup moins critiques que nous, hein.
Oui.
En fait.
Oui, et puis une fois qu'on s'accepte comme on est, ou cette partie-là de nous-mêmes, et qu'on le dit, finalement, on est moins attaquable sur le sujet, parce que c'est...
Oui, puis on l'a accepté. C'est pas si important que ça.
Puis c'est pas aussi important que ça.
On se retrouve tout de suite après une pause musicale.
La santé mentale en question, Anne Voileau.
C'est déjà la dernière partie, il faudra revenir, hein, parce que
oui.
Pour le prochain livre, hein,
oui.
Vous êtes la bienvenue toujours.
Sans livre, hein,
voilà. Ah oui, oui. Ah oui, vous êtes bien partie, là, parce qu'avec le titre, vous pouvez y aller. Alors, moi, c'est vrai que vous utilisez différents supports, hein, la vidéo, les conférences, les livres. C'est quand même différent chaque support. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça vous apporte à vous aussi?
Ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé par faire des vidéos blogs, puis des livres, puis des interviews, et maintenant des conférences, ça s'est fait. C'est pour ça que souvent je parle de faire ça pas à pas, parce que ma prof de français, si elle savait que j'avais écrit des livres, elle rigolerait bien, vu les notes que j'avais en français, etc.
Comme quoi, il faut pas désespérer.
Et ouais. Et pour moi, ça sortait pas en regardant une page blanche, ou en écrivant, ou en étant devant un ordinateur. Ça s'est fait par écrit, par oral, en anglais. Et ensuite, ça s'est fait à l'oral en français. Et maintenant, j'écris. Et maintenant, j'ai suffisamment de confiance en moi ça sort.
Et mais, c'est grave d'écrire aussi, hein. C'est encore autre chose.
Et c'est thérapeutique. Et finalement, depuis l'âge de 8 ans, j'écrivais déjà mon journal intime. Donc, ça s'est passé comme ça. Et ce qui était marrant, c'est que mes amis m'ont découvert vraiment dans les livres. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. J'étais beaucoup plus intime dans les livres et après dans les vidéoblogs qu'au quotidien.
Oui, ça, je comprends.
Et ils ont découvert plein de choses et ils m'ont dit, on ne savait pas que tu traversais tout ça. J'étais très, très privée. Et vraiment, j'avais peur de laisser les gens rentrer dans ma bulle. Hein. Je m'en protégeais pas mal.
Et puis quand on souffre un peu, on se protège aussi de tout.
Ouais.
On ne veut pas souffrir plus,
c'est ça.
Donc on se protège. Ouais.
Ouais. Et moi, je repoussais, j'étais très sensible, donc je repoussais facilement les autres. Et puis, les interviews, j'ai commencé par faire des vidéos Skype, et ensuite, cette tournée à travers les États-Unis, qui a été financée par des donations, en 2011, à travers le Mexique, les États-Unis, le Canada, comme ça.
C'est génial, ça. Alors,
voilà.
Comment vous choisissiez les gens que vous interviewez?
Mais ça s'est fait de manière vraiment magique, hein. Je me suis, depuis ce jour-là, depuis le 1er janvier 2011, c'était le 11-01-11. il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que je savais même pas que les donations allaient arriver. La veille, j'achète un ordinateur, le même montant arrive sur mon PayPal en donation. À l'époque où quand on parlait de donations, c'était pas trop bien vu. Maintenant, ça y est, c'est rentré un petit peu plus. Il y a des plateformes, etc. Mais avant, c'était vraiment, certaines personnes me disaient, mais arrête de mendier, qu'est-ce que tu nous fais? Alors que c'était un soutien, en fait. C'était inconditionnel quelque part. Je mets des vidéos si vous avez envie de soutenir.
Oui, sauf qu'on soutient ce qu'on aime bien. Quand même,
voilà.
Hein. Voilà.
Oui, oui, tout à fait.
C'est une preuve de qualité de ce que vous faites, hein.
Ouais. Et ça a été une aventure extraordinaire. C'est comme si ce jour-là, j'avais vraiment mis les deux pieds dans mon rêve, que tout était avec beaucoup plus de couleurs et je me suis sentie soutenue aussi bien dans l'énergie que financièrement, que des personnes qui me prêtaient leurs apparts, le truc qui arrivait au bon moment, et le contact aussi de la prochaine personne interviewée, c'est-à-dire que j'ai rencontré...
Oui, c'est dans les rencontres, en fait.
Des personnes extraordinaires. Alors, pendant un moment, c'était vraiment d'interviewer des gens connus, donc ça s'est fait de manière simple. Maintenant, ça va être vraiment plus sur une histoire, un ressenti. Pour moi, on a tous quelque chose à partager.
Pense.
Mais c'est vrai que ça s'est fait de manière magique et je trouve que quand on est comme ça, quand on s'ouvre et quand on co-crée avec la vie, quand on émet ses intentions, quand on se met au service de cette vie, et un côté inconditionnel à offrir ses talents quelque part au lieu de le faire pour soi, d'être là pour les autres, on reçoit
oui.
Multiplié par 10,
ah oui.
Par 100.
C'est un vrai partage.
Incroyable. C'est incroyable.
Ça,
et de manière
d'accord.
Non linéaire, c'est-à-dire que ces personnes-là, je vais les interviewer, ça va avoir un impact, un gros impact même sur ce qu'ils font. Peut-être que c'est des personnes dont on n'a jamais entendu parler qui d'un seul coup vont avoir une voix quelque part. Et cet argent ou les finances viennent d'un autre endroit. Moi, ça me bluffe encore, et pourtant, ça fait presque 10 ans maintenant que je mets des vidéos sur YouTube.
Oui, ça m'étonne pas. C'est un peu ce qui arrive à la radio.
C'est ce qui arrive ici
toujours,
aussi.
On se dit toujours, ça va arrêter, ça peut pas continuer, puis il se passe, on rencontre des rencontres, et puis il se passe quelque chose, et puis on est toujours là, ça fait 11 ans.
Ouais.
Oui, on a commencé à peu près en même temps. Mais c'est passionnant. Mais on sent aussi vous sentez qu'il y a une énergie dans le monde, et en fait, que j'entends quand vous parlez comme ça, c'est que vous êtes pris dans cette énergie et l'énergie vous emmène dans des bonnes choses, en fait.
Ouais, c'est une énergie créatrice.
Ouais.
Et je pense qu'on s'en sépare, elle est là à tout moment, l'abondance est là, tout ça c'est omniprésent et on s'en coupe en fait, parce qu'on a l'impression d'être pas assez bon, pas assez bien, de pas le mériter, on a toutes ces choses.
C'est un peu ce qu'on nous apprend quand même à l'école. Hein.
Ouais, ouais. Et c'est pour ça que se réouvrir à la vie, de passer du temps dans la nature, de se réouvrir, même d'ouvrir en grand ses bras, de respirer profondément, tout ça c'est des choses qui nous aident à recevoir, parce qu'on souhaite, et puis après on bloque dès que ça arrive, ou on s'auto-sabote, ou
on peut aussi se sentir
on repousse.
Pas digne de, oui, tout à fait.
Mmh. Alors qu'on l'est tous, on est en vie.
Ouais, mais alors c'est plus facile de dire à la personne qu'on a en face, elle mérite, que de se dire, moi je mérite.
Et ouais. Voilà. Ça d'ailleurs, c'est un bon exercice à faire, en étant face au miroir et en se disant, je t'aime. Ouh!
Alors faut le penser.
Ça, je l'ai fait faire à ma maman, elle avait vraiment eu du mal.
Moi, j'aurais sûrement du mal.
Elle était presque en pleurs.
Ouais.
Mais un amour pas narcissique, un amour, une connexion véritablement avec son être. Pour moi, on a tous une âme, donc c'est cette connexion à l'âme.
Il y a pas longtemps les femmes quand même. Je plaisante, mais c'est vrai. Il y a pas longtemps que c'est reconnu. Mais c'est vrai que quand vous faites faire un exercice à tout le monde, à beaucoup de personnes, si vous mettez une case, une colonne, vos défauts, ça, on en trouve beaucoup, et vos qualités, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez essayé.
C'est un bel exercice, ça.
Oui, ça c'est un bel exercice. Et ben vous verrez.
Je vais le faire ce soir.
Oui, et ben c'est pas commode du tout. Et on le fait. On a fait dans le centre de formation que nous avons. Ce qu'on fait, c'est faire des portraits de l'autre en positif. Et on s'aperçoit que l'autre, c'est très facile de le faire pour l'autre. Mmh. C'est beaucoup plus facile de le faire pour soi.
Mmh. Ouais. Et c'est ça qui est beau dans ce moment de partage justement.
Ah oui, voilà.
C'est cette entraide.
Ouais,
et je pense qu'on est rentré dans cette ère où on rentre dans cette ère de vraiment du partage, de l'entraide. On le voit pour certaines choses qui sont difficiles, mais il y a des sites maintenant, il y a des plateformes pour aider financièrement d'autres projets et même au quotidien, ce que vous avez entrepris ici, etc. Montre que, enfin, en tout cas, personnellement, moi, c'est le partage et de donner apporte tellement que.
Alors, il y a un peu un mélange, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de choses, c'est ton bonheur, ton épanouissement, et je trouve que ça, c'est très restricteur. Enfin, moi, ça me plaît pas du tout, parce que je pense qu'on peut pas être heureux tout seul.
Non.
Donc, ça devrait être notre bonheur, notre épanouissement, mais pas à chaque fois pour les ados, je vois leurs journaux, c'est ça, c'est ton bonheur, ton épanouissement, ton c'est toujours.
Ouais.
Et ça, c'est quand même la mode aujourd'hui.
Ouais. Ouais.
Donc on n'est pas forcément à la mode. Mais on s'en fiche.
Non, je pense qu'ils ont envie vraiment de communier, de s'unir et de rencontrer les leurs d'autres ados du même âge, de se retrouver, de se regrouper, d'être entendus. Tout ça, c'est. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a des super beaux projets, des magnifiques idées qui émergent, mais on n'est pas entendus.
Alors, oui, c'est vrai. Alors, dans vos conférences, quel est votre genre de public?
Il y a peut-être 80% de femmes, quand même.
Mais on est plus à la pointe du progrès, c'est sûr.
Entre 40, 35, 30, 30, 35 et 65.
Oui, donc c'est tous les âges, en fait.
Voilà. Après, ce qui est intéressant sur YouTube, quand je regarde, c'est que
c'est le même genre de
sujet, parce que c'est vraiment des sujets qui touchent à la conscience, à la physique quantique, à la sexualité épanouie, à la nutrition, tout ça, mais je me rends compte que c'est aux expériences de mort imminente, même, à la médiumnité, à tous ces sujets-là, que, il y a quand même, 60% d'hommes qui regardent.
Avant.
Donc le public, les hommes ne viennent pas forcément en conférence ou se déplacent pas, mais sur Internet, c'est vraiment un sujet qui fonctionne.
Enfin, des sujets, parce que là, vous en avez décrit beaucoup quand même.
Oui, il y en a énormément.
Oui, très différents. Et alors, je pense que entre tous les différents médias que vous utilisez, les différents supports, c'est ce qui vous fait rebondir et ce qui vous fait continuer.
Ouais, et puis ce qui est génial, c'est que c'est sans fin.
Ben oui, j'ai bien apprécié.
C'est une créativité. La créativité, elle est là. Elle est pour nous tous sans fin. C'est qu'on la limite et on la bloque. Mais quand le changement nous fait de moins en moins peur, on s'aperçoit qu'il y a une porte qui se ferme et une autre qui se rouvre derrière. Quelque chose, on se prend une claque, mais après, c'est parce qu'il y avait autre chose justement qui demandait à vivre et à être découvert dans notre propre vie. Donc quand on commence à regarder la vie comme ça, c'est assez fantastique cette danse. Il y a moins de résistance, donc on passe peut-être moins de temps à ramer. Mmh. Oui, et les choses se transforment, se transmutent et une autre porte s'ouvre. Parce que ça, j'arrivais à défoncer les portes fermées. tel objectif, c'est ce que je vais obtenir, je vais y aller. Cette puissance comme ça masculine. Mais ce que j'apprends, c'est au contraire maintenant de laisser les, de d'ouvrir cette porte qui est déjà ouverte, c'est-à-dire d'aller vers là où il y a une fluidité.
D'enfoncer.
Voilà, là où la fluidité va. S'il y a trop de barrières, j'y vais plus moi.
Ah oui, puis on a l'impression aussi qu'on enfonce une porte alors que cette porte-là fallait la tirer et pas l'enfoncer. Donc elle était ouverte, mais on n'allait pas dans le bon sens. Il y a un peu de ça aussi quand on fait les exercices que vous donnez. Il y a un peu de ça. On se dit que oui, j'ai peut-être pas pris les choses par le bon côté en fait.
Ouais.
Donc vous ouvrez quand même, vous arrêtez pas d'ouvrir des portes quand même.
Ouais. Il y en a, et quand il y en a pas, bah, c'est ces moments de silence, du temps que je sais que j'ai à passer pour moi, ou de passer du temps en nature, ou simplement respirer à travers ce défi de la vie. Mais voilà, il y a des cycles dans la vie. Il y a des moments où rien ne bouge. Je me souviens comme ça quand je m'étais retrouvée chez ma mère pendant des mois et des mois.
Mais peut-être qu'on a besoin aussi de ces temps-là.
C'est évident. On en a besoin.
Le prochain, c'est je suis célibataire et ça me plaît. Et puis après, ça sera je suis mariée, ça me plaît.
Peut-être qu'un jour j'écrirai je suis une mère, une maman et ça me plaît.
Oui, sûrement, tout va très bien.
On verra.
Mais vous avez raison, c'est dans l'infini. Mais en fait, ce qui vous fait vivre, si je comprends bien, c'est les blogs, c'est les conférences, c'est ce rapport avec le public, c'est ce rapport avec les autres.
Ouais, et pourtant c'était la chose qui me faisait le plus peur avant. Ah c'est bon ça qui est extraordinaire, et de parler en public, mais ça
et
me
pourtant,
faisait
voyager,
peur.
Vous voyez.
Ouais, mais c'est vraiment pas à pas. Quand je dis pas à pas, c'est même d'interviewer des gens en personne, de me retrouver chez eux à faire une interview comme ça devant la caméra, c'était quelque chose qui me faisait peur. De parler devant un public aussi, c'est là où on se rend compte que c'est tous les jours une pratique qui fait qu'on va passer le cap, on va sortir de sa zone de confort.
Est-ce que vous avez des questions type ou est-ce que vous vous adaptez à la personne qui est face à vous?
Ah non,
dans
chaque,
les interviews.
Ouais, non, il n'y a pas de questions type. Non, il y a une préparation avant et après c'est vraiment je mets mes notes de côté et je suis là avec la personne et j'aime vraiment découvrir tout ce qu'il y a dans leur monde, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont tellement de sagesse et puis on le voit dans les yeux et me connecter à ça, de découvrir ça et de transmettre ça au-delà des mots. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus délicieux.
Mais écoutez, de vous entendre, ça donne envie de vous lire.
Ah,
vraiment.
Merci.
Alors, où est-ce qu'on trouve le défi des 100 jours?
On le trouve un peu partout. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que ça va bientôt être à Nature et Découverte aussi.
Ah,
là.
Très bien.
Donc,
on va à la FNAC, on peut le trouver.
À la FNAC, Amazon, enfin, ou dans les petites librairies aussi. Parce
alors,
que
je
c'est
conseille
important
le défi des 100 jours.
Oui. Hein,
et puis surtout, après, de faire remonter ce qui s'est passé. Après 100 jours.
Oui, des témoignages dans 100 jours. Et de bien mettre la date de début et de fin dans son calendrier. Parce que même si on a l'impression de pas avoir trop fait de choses, c'est bien de faire un bilan dans 100 jours. Je vous invite à tous se faire un bilan de votre vie dans 100 jours.
Merci beaucoup. Ouais. Et revenez surtout, on vous attend. À bientôt.
Merci, gros bisous.